Le journal de Florence Paracuellos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Peut-on licencier des salariés quand on est aidé par l'État? La question n'a pas fini de se poser alors que la crise s'annonce durable. Polémique en perspective alors qu'il est question d'autoriser les licenciements dans certains cas. Explication dans un instant. Et coup de projecteur sur un secteur frappé de plein fouet, les bagagistes et autres prestataires de l'aérien qui se séparent déjà d'une partie de leur CDD et intérimaires. Un référendum sur le climat. Emmanuel Macron est pour, alors qu'il s'apprête à recevoir les conclusions de la Convention citoyenne. Référendum que les oppositions auront bien du mal à contester, nous dira Yaël Gauz, avant vos invités, dans 20 minutes, Ali.
Oui, la Convention citoyenne pour le climat, on va en parler à 8h20 dans le grand entretien avec Thierry Pech, qui est le coprésident du comité de gouvernance, Mathilde Himmer, qui est membre de ce comité, et Mathieu Sanchez, c'est l'un des 150 citoyens tirés au sort pour participer à cette convention. Intervenez au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Et dans ce journal, la campagne la plus dingue des municipales à Montpellier, ces abattoirs allemands où les cas de Covid se multiplient. Et l'événement du jour, toutes catégories confondues, la sortie du nouvel album de Bob Dylan.
France Inter.
Recevoir une aide de l'État et tailler dans ses effectifs. On a compris que ce serait possible avec Air France qui va toucher 7 milliards d'euros et supprimer 8 à 10 000 postes. De là à licencier quand on bénéficie de l'argent public, voilà une autre question qui pourrait bien fâcher. Autoriser les entreprises qui profiteront du chômage partiel de longue durée à faire des plans sociaux. On en saura plus en début de semaine prochaine, Hélène Philly, mais c'est un scénario sur lequel planche le ministère du Travail.
Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique et distribue un produit. Confrontée à une baisse forte et durable de son activité production, elle décide de négocier un accord, baisse de salaire en partie compensée par l'État. Elle devra en échange s'engager à maintenir l'emploi sur cette partie de l'activité, la fabrication, mais elle aurait le droit de licencier ailleurs, ce que dénonce Michel Boga de Force Ouvrière.
Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement l'ensemble des salariés soit protégé par cet accord. Pour Force Ouvrière, dès qu'il y a un remboursement, dès qu'il y a des subventions de l'État, eh bien, elles doivent être conditionnées. Et là, la condition, ça doit être maintien dans l'emploi. Sinon, s'il y a des licenciements, des ruptures de contrat, sous quelle forme que ce soit, eh bien, obliger l'entreprise à rembourser les sommes versées.
Il faut de la souplesse pour que le système fonctionne, répond le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Il faut regarder l'ensemble de l'entreprise. Et évidemment, c'est la dernière extrémité. Il faut de la souplesse, oui, parce que c'est vrai qu'on découvre tous ce qui se passe au fur et à mesure. Ça marche dans les deux sens, hein, d'ailleurs, la souplesse. Le pire est jamais certain. C'est-à-dire qu'on peut prévoir une baisse d'activité de 30% et finalement ça repart plus vite.
De la flexibilité, mais tout de même un garde-fou. L'accord devra être approuvé par des syndicats représentant au moins 50% des salariés.
Licenciés pour faire face à la crise, l'assurance chômage anticipe la destruction de 900 000 emplois cette année et 630 000 chômeurs de plus. On les compte déjà dans les rangs des travailleurs de l'aérien, ces prestataires des compagnies et des aéroports frappés par la récession du secteur. Ils ont commencé à se séparer de leur contractuel, Sébastien Sabiron.
Ils sont bagagistes, agents d'accueil ou de sûreté, totalement dépendants du trafic aérien et plongés dans l'incertitude. David Vizier dirige une entreprise de nettoyage, 70 salariés en France.
Tous les agents sont au chômage partiel. On a eu quelques interventions, donc on a fait travailler quelques personnes, mais c'était une heure par jour. On attend que ça reprenne un peu, au moins d'avoir un programme d'évol, je pense que c'est important.
Des prestataires sous perfusion, chômage partiel, prêt garanti par l'État, insuffisant malgré tout pour assumer les charges fixes. Alors il faut déjà réduire la masse salariale. Hugo Rodriguez, directeur général de WFS, qui assiste les compagnies au sol.
Progressivement, si vous voulez, on a tapé dans tout ce qui était intérim, tout ce qui était CDD aussi, qui arrive en fin de contrat. Donc si l'activité ne reprend pas, on va devoir malheureusement se séparer de certaines personnes. C'est plus de 20% d'emplois, en tout cas, qui sont déjà supprimés, qui seront jusqu'à la fin de l'année. On parle de plus de 20%.
Réduction d'effectifs envisagée également chez les prestataires de services à bord. Alexis Franz dirige l'Alliance des métiers de la restauration aérienne et ferroviaire.
Le respect de la distanciation physique fait que le service à bord a été considérablement réduit. Et cette réduction du service va avoir un impact assez fort sur notre activité.
À terme, tous s'attendent à de profonds changements structurels, plus de télétravail, moins de déplacements, moins de trafic aérien et donc moins d'activités pour les prestataires.
Et comment relancer l'économie européenne avec 500 milliards de subventions directes aux États et 250 milliards de prêts? Le plan de la Commission européenne sera discuté pour la première fois par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union aujourd'hui. De simples débats pour l'instant dans une Europe divisée sur le principe de mutualiser les dettes dans l'espoir de pouvoir se mettre d'accord d'ici le sommet européen du mois de juillet.
8h05, la suite du journal. Florence Paracuelos, c'est quand des citoyens tirés au sort arrivent aux mêmes conclusions que des associations de protection de l'environnement.
De la rénovation énergétique obligatoire au bio dans les cantines, de l'interdiction de la publicité pour les SUV à l'augmentation de l'éco-contribution sur les billets d'avion. Les 150 propositions de la Convention pour le climat ont été saluées par les écologistes hier. Reste à faire le tri et à les remettre au président Emmanuel Macron, qui n'est pas contre l'organisation d'un référendum après cette séquence citoyenne voulue après le mouvement des Gilets jaunes. Difficile sur le principe de s'y opposer, Yael Gauz, même quand on est dans l'opposition.
Donner la parole au peuple pour trancher les questions de transition énergétique. Si ça peut faire avancer la cause, tant mieux, et ça nous met au centre du jeu, veut croire la direction de ELV. Difficile de trouver l'angle d'attaque, si il y en a un, la lenteur, regrette la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol. Par la loi et le Parlement, on irait plus vite.
Dans son programme, Emmanuel Macron parlait déjà de rénovation thermique des bâtiments. Ce référendum sonne un peu comme une dernière tentative de gagner du temps. Il est dommage de recourir encore à un référendum quand on a passé un an à mettre en place une convention.
Et cette gêne est perceptible aussi à l'autre bout de l'échiquier. Marine Le Pen ne jure que par le référendum. Oui, mais pas sur tous les sujets, tente d'argumenter le porte-parole du RN, Sébastien Chenu.
Non, c'est pas gaulliste parce qu'un référendum, c'est fait pour trancher une question qui divise la société. Or, sur l'urgence climatique, il n'y a pas de question qui divise la société.
Donc, vous pourriez appeler à voter pour.
Ah, mais écoutez, avant d'avoir appelé à voter pour, il faut voir ce que ce référendum nous réserve comme question. Le président de la République va de manœuvre en manœuvre, tout simplement pour faire oublier ce qui est en train de se passer dans notre pays.
Les choses seront plus claires en juillet, sur quel sujet, combien de questions retenues, mais l'initiative réjouit le camp des marcheurs. Après la chape de plomb du Covid, Emmanuel Macron, estime un dirigeant, a encore le sens du mouvement.
Yael Gauz, quand la droite lilloise appelle à faire barrage aux Verts en votant Martine Aubry au deuxième tour des municipales, voilà ce que vient de faire le chef de l'opposition à Lille contre des écolos qu'il qualifie de fous furieux. Et direction Montpellier, maintenant étape du jour de notre série sur ces municipales, sans doute la campagne la plus folle de France, avec cette alliance entre écolos dissidents soutenus par une partie de la France insoumise et représentée par le milliardaire Moed Altrade face au maire sortant d'hiver gauche et à un socialiste officiellement soutenu par les Verts. Montpellier célèbre pour sa place de la comédie, storyboard d'une campagne improbable, signée Laurence Perron.
Il y a énormément de boîtes aux lettres.
Scène 1, extérieur jour, les équipes du maire sortant, casquettes et t-shirts orange font du boitage. Tractage de boîte aux lettres pour Philippe Sorel, qui a refusé de faire campagne au premier tour à cause d'une opération du genou, mais s'est bien rattrapé pendant le Covid.
Il me demandait la mairie, il me demandait plus souvent de mes nouvelles que mes enfants, vous avouerez quand même.
Scène 2, extérieur soleil tombant, le socialiste Mickaël Delafosse, allié à Europe Écologie Les Verts canal officiel, un slogan, la gratuité des transports publics, le jeune prof en tête dans les sondages, joue tous les coups.
Futur maire qui refuse qu'il y ait des classes de 32 élèves dans sa ville, c'est le top.
Le prof que je suis n'accepte pas des classes à 32 élèves.
Oui, mais maintenant, voilà. Quand on est politique, il faut acter pour que ça ne se passe pas.
Le clou du spectacle se joue intérieur jour chez la candidate écolo adoubée puis reniée par son parti. Clotilde Ollier concourt désormais aux côtés d'Alain Cadoulin, liste citoyenne, proche des insoumis, Moed Altrade, patron milliardaire du club de rugby, et Rémi Gaillard, clown politique revendiqué. Le triangle des Bermudes, dit-il.
Je comprends que notre triangle des Bermudes, dans lequel on peut se perdre un petit peu, je suis d'accord avec ça, mais j'espère qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont se perdre. Les deux tartuffes qui sont en fait les mêmes.
Ceux qui en parlent le mieux, c'est Europe Écologie Les Verts. Sorel Delafosse, c'était les bétonneurs de Montpellier qui avaient détruit la ville.
Et nous, avec Altrade, finalement, on amène juste les brouettes.
Avec plus de 65% d'abstention au premier tour, un maire qui boite, un challenger socialiste, une alliance gauche-écolo-milliardaire-clown, la fin du film reste très ouverte.
Laurence Perron. Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux, mais la loi Avia, du nom de la députée qui l'a portée, va devoir être réécrite. Censurée hier par le Conseil constitutionnel, le texte prévoyait l'obligation pour les plateformes de retirer en 24 heures tout contenu manifestement illicite, sous peine de sanctions pénales et financièrement très lourdes. Mais les gardiens de la Constitution ont jugé qu'il y avait un risque de surcensure de la part des réseaux et donc une atteinte à la liberté d'expression. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, compagnie Facebook retire des publicités pour Donald Trump en campagne électorale, des messages contre l'extrême gauche affichant un triangle rouge inversé, symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de concentration. Les États-Unis, où de nouvelles manifestations auront lieu aujourd'hui pour les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Le 19 juin 1865, c'est la date retenue par les historiens. Commémoration particulière, évidemment, presque un mois après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc. Et commémoration singulière pour les familles de descendants d'esclaves, comme la famille Quander, dont les ancêtres ont été déportés d'Afrique au XVIIe siècle. Reportage à Washington, Grégory Phillips.
Roalumin Quender reçoit dans son jardin du quartier de Brooklyn à Washington. Ce juge à la retraite de 76 ans a pu documenter l'histoire de sa famille et remonter jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
Notre famille, à l'origine, vient du Ghana, en Afrique de l'Ouest. Des années plus tard, George Washington avait 317 esclaves dans sa résidence de Mount Vernon. Plusieurs d'entre eux étaient des ancêtres de la famille Quander.
Aujourd'hui, la famille Quander a des rues et même une école dans l'État voisin de Virginie. Mais pour l'ancien juge féru de généalogie, le combat des Noirs américains n'est pas achevé.
George Floyd's
Le meurtre de George Floyd, ou plutôt je devrais dire son martyr, a tellement marqué les gens et les Afro-Américains qu'on peut penser aujourd'hui qu'il va y avoir un changement. On ne pourra jamais revenir à la situation précédente. Mais malgré tout, être noir en Amérique reste un défi. Il y a encore la peur d'être interpellé, d'être assassiné, la pauvreté aussi.
Roalumin Quender souhaite que la mobilisation de ces dernières semaines se traduise dans les urnes en novembre et il espère que l'élection amènera à la vice-présidence une afro-américaine aux côtés du démocrate Joe Biden. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Des milliers d'habitants de Pékin qui font la queue pour se faire dépister. Image du regain de contamination dans la capitale chinoise. Moins de 200 cas positifs de Covid-19 seulement sur 21 millions d'habitants depuis la semaine dernière. Les autorités très alarmistes ces derniers jours considèrent désormais que la situation est sous contrôle. En Allemagne, pas d'inquiétude majeure, mais de nouveaux foyers là aussi. 400 familles en quarantaine dans un quartier de Berlin après la découverte de plusieurs cas de Covid. Et un très gros cluster, encore une fois, dans un abattoir, Ludovic Piétenu, 730 contaminations. Le chiffre est à la mesure de la taille de l'établissement.
C'est le plus grand abattoir d'Allemagne et d'Europe. Tönnies emploie sur ce site ouest-allemand près de Münster 6400 ouvriers. Sur les 1106 déjà testés, près des trois quarts, 730, sont positifs et placés en quarantaine. Il va falloir étendre ces contrôles à tous les autres salariés, cela va prendre plusieurs jours. Une douzaine de soldats de l'armée allemande arrivent aujourd'hui en renfort de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Malte. Dans ce secteur, beaucoup de travailleurs sous-traitants venant de Pologne, de Roumanie ou de Bulgarie. Avec la réouverture des frontières, certains d'entre eux ont voyagé, sont retournés dans leur famille et auraient, selon les dires du président de la région, Armin Laschet, candidat à la succession d'Angela Merkel, importé le virus. Cette affirmation a fait scandale, il est revenu sur ses propos, ce sont les conditions de travail et l'hébergement de ces personnes qui sont en cause. Après de précédents cas au mois de mai dans d'autres abattoirs du pays, le ministre du Travail avait pourtant durci les contrôles, il a promis hier de redoubler de vigilance dans ce secteur où le froid aussi favorise l'épidémie. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
En France, 28 décès comptabilisés hier à l'hôpital et plusieurs cas groupés au sud de Rouen, annonce la Direction Générale de la Santé. Une trentaine de contaminations également découvertes à Sarcelles, dans le Val d'Oise, où une campagne de dépistage itinérante est lancée. Enfin, son visage est marqué par le temps, mais sa musique ne prend pas une ride. Bob Dylan sort donc un nouvel album et c'est l'événement du jour. Le prix Nobel de littérature a repris la plume et fait écouter ses nouvelles chansons, les premières depuis 8 ans, Rough and Rowdy Ways ou Le bilan d'une vie. Mathieu Culeron, c'est du très grand Bob Dylan. The flowers are dying
like all things do. Le disque commence avec une chanson très introspective. Dans I Contain Multitudes, Bob Dylan chante « Je dors avec la vie et la mort dans le même lit », un titre qu'il dit avoir écrit dans un état de transe comme on peint un tableau. Le style est direct et l'absence de métaphore indique que le chanteur prix Nobel tente de faire le bilan d'une vie d'exception. Une vie cependant onirique où se côtoient les noms d'Anne Frank, des Rolling Stones et même d'Indiana Jones. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones. And them British bad boys, the Rolling Stones. Puis viennent des chansons où il rend hommage à ceux qu'il admire, les poètes de la Beat Generation, Ginsberg et Kerouac dans Mother of Muses, et un hommage au célèbre bluesman du Mississippi dans Goodbye Jimmy Reed. Dans Murder of Moss Fall, Bob Dylan évoque le meurtre de Kennedy et à travers ce récit convoque les événements qui ont jalonné sa vie. À l'aube de ses 80 ans, Bob Dylan sort ce disque comme si c'était le dernier. La voix est intense, les textes profonds et généreux. On sent que le grand songwriter américain, complexe et multiple, donne tout pour ce qui deviendra très certainement un classique incontournable dans son immense discographie. Mother of Muses, sing for me.
Mother of Muses, sing for my heart. Bob Dylan, 80 ans, est-ce que vous connaissez si bien sa vie et sa carrière, Ali? Pour le savoir, allez donc répondre au quiz de France Inter, franceinter.fr.
Et vous aussi, Florence, répondez au quiz et on comparera nos résultats. Merci en tout cas et bonne journée.